Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, parler de la presse jeunesse, de podcasts et un spectacle en live d'un genre nouveau, limite interview. Vous retrouverez Bruno Donnet pour ses télescopages, mais également Marc-Antoine Lebray et ses voix. Ça peut finir en battle avec notre invité culture, Antoine Duléry. Ce sera en toute fin d'émission. Mais d'abord, le journal des médias et les audiences télé du week-end avec Louise Bernard. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia fête un anniversaire, Okapi, le journal des 10-15 ans, à 50 ans aujourd'hui et toujours pas une ride selon la formule consacrée. Qu'est-ce qui explique la longévité de ce bimensuel unique? Réponse avec le directeur des titres ados de Bayard Jeunesse, David Groison. Puis nos invités, la comédienne Anna Girardot qui signe la réalisation de son premier podcast, c'est La disparition de Stéphanie Meiller, oui, d'après le roman de Joël Dicker. C'est à écouter sur la plateforme Cybelle et justement, nous serons aussi avec la fondatrice de Cybelle, Virginie Maire. Enfin, je vous l'avais dit, le comédien Antoine Duléry pour le spectacle 90 minutes avec Antoine Duléry au Palais des Glaces. Il y aura également son portrait d'avant la célébrité, le fameux portrait de Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Un nouveau millionnaire grâce à la télévision, un coup dur pour les kiosques numériques, des nouveautés du côté des Césars, les reines du shopping aussi innovent, un film français interdit en Russie et puis la date de la saison 5 de The Crown.
Quel programme ? Mais d'abord les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé le film Sully de Clint Eastwood sur TF1. 4 millions de téléspectateurs, 19,7% de part d'audience. Très bon score, d'autant que c'était la deuxième fois que TF1 diffusait ce film. La première fois, il y avait eu plus de 6 millions de téléspectateurs. Deuxième, France 2 avec le film aussi. Vous savez, le dimanche soir, c'est le cinéma. Hein. L'école buissonnière de Nicolas Vanier. 2 940 000 téléspectateurs, 14,7% de part d'audience. Et puis troisième, France 3 avec ses enquêtes de Murdoch, la suite de la saison 4. L'épisode inédit a attiré 2 440 000 téléspectateurs, 11,1% de part d'audience. M6 Capital est quatrième avec pas un score aussi bon que d'habitude, on va dire. En petite forme, voilà. 2 100 000 téléspectateurs, 10,2% de part d'audience.
Et samedi soir alors?
Les téléfilms policiers sont définitivement les rois des audiences. Hein. Les mystères de la gendarmerie permet à France 3 d'être leader. 4 600 000 téléspectateurs, leader devant The Voice.
Incroyable.
Sur TF1, oui, qui doit se contenter de la deuxième place et de 3 700 000 téléspectateurs. C'est en forte baisse, hein. 500 000 de moins que la semaine dernière et presque 1 million de moins par rapport au lancement la semaine précédente. Troisième place pour M6 et sa série Dr House, 1 million et demi de téléspectateurs. Fantasy Artist sur France 2, alors là la chute continue, une véritable catastrophe pour l'émission de Nagui, 847 000 téléspectateurs seulement, 4,8% du public. Rendez-vous compte, c'est 5 fois moins que France 3, que son téléfilm. La chaîne est 5e derrière Échappée Belle. En théorie, il reste encore 3 émissions, toutefois si France 2 laisse le programme à l'antenne.
Et on remonte encore un peu dans le temps avec les audiences de vendredi soir.
Oui, Candice Renoir parvient à nouveau à battre Danse avec les Stars. La série de France 2 attire presque 5 millions de téléspectateurs. Le concours de danse de TF1, lui, 3 800 000 et il perd aussi là un demi-million de téléspectateurs en une semaine. Troisième place, comme tous les vendredis désormais, pour NCIS sur M6, 2 100 000 téléspectateurs.
Culture Média. On passe au journal des médias avec un nouveau millionnaire grâce à la télévision.
Oui, ça y est, il l'a fait.
Les créateurs d'Astérix se sont inspirés pour le personnage de Cléopâtre. D'Elizabeth Taylor. 1 million d'euros est dépassé aujourd'hui aux 12 coups de midi. Je trouve ça fantastique ce qui se passe. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait cet instant. C'est aujourd'hui. Quel plaisir de vous voir aussi heureux.
Voilà, c'était samedi midi, 1 million d'euros remportés par Bruno, candidat des 12 coups de midi sur TF1. Record du plus gros gain à la télévision française. Alors, il détenait celui du plus grand nombre de participations à un jeu télé, celui du plus grand nombre de victoires au monde. Et si on veut chipoter, alors on peut dire qu'il lui reste quand même un record à battre, c'est celui de la plus grosse somme d'argent remportée. Car si on regarde dans le détail, il a atteint ce gain d'un million en additionnant l'argent et les cadeaux. Parce que oui, il a gagné 9 voitures, 9 téléviseurs, 9 consoles de jeux. Donc maintenant, il faut qu'il remporte quand même le vrai million en cash, comme ça avait été le cas de la gagnante de Qui veut gagner des millions en 2004. Et c'est possible qu'il la batte parce qu'il continue d'être candidat tous les jours, Bruno, depuis le 20 janvier. 242 participations.
Des nouveautés annoncées pour la prochaine cérémonie des Césars.
Deux nouvelles catégories, dont deux nouvelles récompenses en 2022. Le César des meilleurs effets visuels et celui du meilleur film de court-métrage documentaire. Alors pour le second, en fait, c'est un retour. Il avait déjà été décerné entre 1977 et 91. Raymond Depardon l'avait d'ailleurs reçu deux fois. D'ici novembre, 12 courts-métrages documentaires vont donc être sélectionnés. Et l'Académie a également annoncé modifier ses critères d'adhésion pour devenir membre. L'objectif, c'est d'ouvrir l'Académie à plus de diversité et de jeunesse, et notamment aux femmes, pour espérer atteindre enfin la parité.
La suite de l'actualité des médias avec un coup dur pour les kiosques numériques.
Oui, les kiosques numériques, ce sont ces sites ou ces applications qui donnent un accès illimité à un très grand nombre de magazines ou de quotidiens en échange d'un abonnement mensuel. C'est une dizaine d'euros environ. On peut citer e-presse ou caféine, par exemple. Deux journaux ont décidé de ne pas renouveler leur accord. L'Équipe et Le Point, ils ne seront donc plus disponibles sur ces kiosques numériques en 2022, mais uniquement via un abonnement direct. Et c'est bien l'objectif de ces journaux, augmenter leur nombre d'abonnés, qui est source de revenus, et puis mettre en avant leur propre formule d'abonnement, plus développée, qui ne comprennent pas que le PDF du journal, comme c'est le cas sur e-presse ou caféine, mais aussi du contenu exclusif, comme des documentaires, des vidéos et des podcasts. En tout cas, c'est le cas de l'Équipe.
De la presse, on passe à la télévision. L'émission Les Reines du Shopping entame une semaine spéciale aujourd'hui.
Semaine spéciale famille, c'est une première. 5 femmes d'une même famille vont s'affronter dans ce concours de shopping de M6. Mais oui, concurrence. L'objectif, trouver la meilleure tenue en un temps et avec un budget limité. Le tout sous l'œil exigeant de Christina Cordula.
Il y avait des âges différentes, donc bien évidemment, chacun avec son style, chacun dans sa façon d'être. Voilà, il faut respecter chacun dans son propre personnalité. On voit que c'est de la famille, on ne veut pas vexer, mais en même temps, on veut gagner. Donc, on a vu un peu cette tension qu'il peut avoir en famille, mais en même temps, de la bienveillance à la fin. C'était très attendrissant.
Cette saison, M6 mise d'ailleurs beaucoup sur ces semaines spéciales comme celle-ci pour tenter de renouveler l'émission, parce que ça fait quand même 8 ans qu'elle existe, avec des thèmes comme spéciale belle-fille, belle-mère, une spéciale Miss France aussi. Et puis pour la première fois, la participation de Christina Cordula elle-même. Alors d'habitude, c'est une juge intraitable. Elle vient de finir le tournage et elle a accepté de nous raconter. Elle a bien compris cette fois-ci la difficulté des candidates qu'elle voit défiler depuis plusieurs années.
Là, je sentis dans mon propre sang l'adrénaline, le stress, c'est que du positif en fait. C'est un bon sentiment, c'est une bonne adrénaline, c'est un bel stress. Mais je me suis donnée à fond. Je me suis beaucoup amusée, mais c'était très très chaud pour moi. Ça, je peux vous dire, c'était... j'ai failli ne pas avoir les tenues. Et c'est très fatigant, donc c'était drôle quoi.
Redoutable concurrente, imaginez la tête des candidates quand elles ont découvert qu'elles allaient jouer en fait contre Christina Cordula. Alors pas date de diffusion encore, mais en attendant, la semaine spéciale famille des Reines du Shopping, ça commence cet après-midi à 17h30 sur M6.
Et puis l'actualité série et cinéma en bref, Netflix a dévoilé la date de la prochaine saison de The Crown.
Il faudra être patient, ce sera en novembre 2022, saison 5 qui est actuellement en tournage. Mais oui, et ça fait un an déjà qu'on attend. Il y aura une nouvelle actrice encore pour incarner la reine Elisabeth, troisième actrice, Imelda Staunton, qui a joué dans Downton Abbey ou que les fans d'Harry Potter connaissent dans le rôle de la sadique professeure Dolores Umbridge. Cette nouvelle saison de The Crown, elle se déroulera dans les années 90 jusqu'en 97 avec la mort tragique de Diana.
Et puis le film Benedetta interdit en Russie.
Oui, ce film avec Virginie Efira où elle incarne une nonne lesbienne, film choc de Paul Verhoeven projeté cette année à Cannes. Il ne sortira pas en Russie début octobre comme prévu. Le ministère de la Culture de Russie a retiré le visa d'exploitation. Aucune raison officielle n'a été donnée. Mais d'après Courrier International, l'église orthodoxe aurait fait pression en raison de scènes jugées pornographiques et offensant les croyants.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour célèbre un anniversaire qu'on est heureux de fêter, les 50 ans d'un journal que tout ado a eu entre les mains. C'est Okapi. Qu'est-ce qui explique sa longévité? On en parle avec le directeur des titres ados de Bayard Jeunesse, David Croison. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
50 ans et toujours jeune, c'est un slogan que peu de journaux pourraient encore tenir. Et pourtant, s'il y en a un qui survit et qui cartonne, c'est Okapi. Il y a un demi-siècle tout pile, ce journal pour les 10-15 ans débarquait chez les marchands de journaux. Depuis, tout ado l'a déjà eu entre les mains. 50 ans de culture, d'actualité, de commentaires de lecteurs. Quel est le secret de sa longévité, si tant est qu'il y en est-il un? Comment se réinvente-t-il chaque année? Et d'ailleurs, faut-il se réinventer? Pour y répondre, nous recevons David Croison. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur des titres jeunesse de Bayard Presse, qui édite notamment le bimensuel Okapi. Donc 50 ans pour Okapi. Comment expliquez-vous la longévité du titre, si tant est que cela s'explique? Ou est-ce un miracle à vos yeux?
Ouais, bah c'est un miracle perpétuel. Parce qu'effectivement, les jeunes, ils sont avec nous le temps des années collège. Et donc, par rapport à plein de nos confrères de la presse écrite, bah, tous les 4 ans, on perd tous nos lecteurs, il faut les renouveler. Donc, ça fait 50 ans qu'effectivement, la rédaction arrive à convaincre une nouvelle génération d'ados de lire Okapi.
Vous avez fait des études marketing. Combien d'anciens lecteurs d'Okapi deviennent des abonneurs de leurs propres enfants quand ils deviennent adultes?
Alors, on n'a pas ces études-là, mais on reçoit beaucoup de courriers et beaucoup de témoignages de parents, de personnalités et tout, qui nous disent effectivement à quel point ça les a marqués. Et c'est sans doute une des clés du succès, c'est-à-dire que on a l'habitude à Bayard de dire que les histoires qu'on lit petit nous marquent toute la vie. Et les journaux qu'on lit ados, qui nous ont accompagnés dans notre adolescence, ça fait partie aussi d'une transmission qu'on a envie de faire à ses propres enfants.
Mais certains ont disparu. Moi, je me souviens que j'étais abonné à PIF et je n'ai pas pu abonner mes enfants à PIF puisque le journal a disparu. Or, Okapi a tenu. Combien de lecteurs? Quel est le tirage?
Alors, c'est 673 000 lecteurs. Et c'est un tirage un peu plus de 49 000.
J'aime bien le 73 000.
Ouais, non, mais je m'affiche avec les chiffres pour vous dire les derniers chiffres qui viennent de tomber la semaine dernière. Donc, l'écart est important parce que c'est un journal qui circule beaucoup, en fait. C'est un journal qui circule dans la famille entre les frères et sœurs avec les parents et qui circule beaucoup aussi dans tous les centres de documentation, dans les collèges, dans les médiathèques, etc. Le rédacteur chef d'Okapi a l'habitude de dire que c'est le journal le plus corné du CDI parce que c'est effectivement le journal le plus agréable à lire à la récré.
Et puis c'est également un journal intemporel. Il y a des sujets d'actu, mais les sujets animaux, les sujets nature, on peut les lire avec un an de retard, avec le même appétit.
Ouais, un an de retard, mais pas beaucoup plus parce qu'effectivement, il faut toujours s'adapter à cette nouvelle génération d'ados, à leurs nouveaux codes, à leurs nouvelles références, à leurs nouvelles cultures.
On va en parler. Combien d'abonnés et combien de ventes en kiosque? Ça se répartit comment?
Alors, c'est 80-90% d'abonnés. C'est vrai que ça fait partie aussi ça des secrets, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fidélité, puis on a un an pour convaincre. Et au bout de 22 numéros, c'est, la clé, c'est est-ce qu'ils ont envie? Ils se sont dit, j'ai été nourri, on m'a appris plein de choses, ils ont répondu à mes questions. Et est-ce que j'ai envie de continuer l'aventure avec eux?
Et puis en même temps, les 10-15 ans vont rarement au kiosque, moins encore que leurs parents. Le prix au numéro, c'est 5,20 €. Le prix de l'abonnement, vous le savez par cœur?
C'est 8 € par mois.
Sur ce numéro anniversaire, on peut y voir un Okapi. Rappelez-nous ce qu'est un Okapi. Pourquoi ce choix de couverture? Si on tourne la quatrième de couve, c'est encore un Okapi.
Ouais, bah c'est ça,
l'Okapi, la réponse de 71.
La réponse est derrière, c'est que le premier numéro mettait un Okapi, qui est cet animal un peu bizarre, là, de mélange de zèbre et de girafe. Mmh. Et en 71, c'est un panel de lecteurs, 3000 lecteurs, qui ont choisi ce titre parmi d'autres d'Okapi. Donc ça n'a pas tellement de sens, sinon, au fond, de se dire que dès les fonds baptismaux du journal, il y avait l'idée d'être en co-construction avec des lecteurs et leur permettre de participer à la création de ce qui est aussi leur journal.
Alors, vous retracez dans ce numéro anniversaire plusieurs grands moments de l'actualité qu'Okapi a suivi. Page 10, par exemple, ça va de la chute du mur de Berlin jusqu'à la crise du Covid. Comment on traite différemment l'actualité quand on parle à des ados? Peut-être que ma question est idiote et qu'il ne faut pas traiter différemment l'actualité.
Non, elle n'est pas idiote du tout. Effectivement, il faut surtout traiter toutes les actualités. Il ne faut pas s'interdire de se dire qu'on veut les mettre dans une bulle, on les extrairait de l'actualité. Simplement, il faut se dire comment on le raconte. Au fond, on a plein de mécaniques, c'est-à-dire qu'on peut le raconter en BD, on peut le raconter en infographie, on peut le raconter en questions-réponses. Et l'idée, c'est vraiment de partir d'eux, des questions telles qu'ils se les posent, telles qu'ils les formulent, avec les références qu'ils ont ou pas. Mmh. Et c'est vrai que ça va hyper vite. C'est-à-dire qu'un jeune qui a 11 ans aujourd'hui, les procès du 13 novembre, eh ben, évidemment, en 2015, il avait 5 ans, il n'en a pas forcément la trace, il n'a pas forcément ça en tête. Tous les journalistes de la rédaction, si l'ont. Donc, il faut faire ce travail d'aller dans les collèges, d'accueillir des jeunes à la rédaction, d'échanger avec eux sur le blog qu'on a d'Okapi. Pour partir du bon endroit.
Alors, on voit l'accélération de ce demi-siècle suivi par Okapi. Il y a une double page qui s'intéresse aux médias. C'est notre sujet de prédilection ici. Et on voit l'évolution des médias à travers le temps. C'est page 44-45. Si on devait résumer, on voit le transistor, Doc et Difool, l'arrivée d'Internet, les enfants du rock avec Decaune et Philippe Manœuvre, la passion du streaming, le top 50 et enfin TikTok. C'est allé à une vitesse folle, on a l'impression.
Ça allait à une vitesse folle et c'est vrai que ça oblige aussi un rendez-vous papier comme Okapi à se réinventer tout le temps parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose d'être en concurrence de tant d'attention avec juste Doc et Difool le soir sur une radio et puis d'être dans ce temps d'écran explosif. L'ANSES là, a fait une étude sur le temps d'écran des 10-15 ans, c'est plus de 26 heures par semaine, c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps devant les écrans qu'au collège. Donc effectivement,
ça vous terrifie ou c'est pour vous une donnée brute ?
Comme je suis un peu parent, ouais. Ça me terrifie. Comme je suis journaliste, je suis aussi obligé de me dire, c'est un phénomène de société qu'il faut analyser comme une donnée brute et de se dire de quoi ils ont besoin sur les écrans et qu'est-ce qu'ils ont besoin sur le papier.
Le développement, la diversification d'Okapi et surtout de quoi parle le journal aujourd'hui dont on ne parlait pas il y a 50 ans. La réponse juste après une courte pause. Nous sommes avec David Croizon, le directeur des titres ados de Bayer Press. Bayer Press qui fête aujourd'hui le demi-siècle d'Okapi.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de David Croizon, c'est le directeur des titres ados de Bayer Press. C'est Bayer Press qui édite Okapi. Okapi, le bimensuel des 10-15 ans qui fête ses 50 ans. Aujourd'hui, cette semaine, numéro en vente pendant un mois. Est-ce que vous sentez que la demande éditoriale des lecteurs est différente aujourd'hui ? Marquez, vous n'êtes pas là à Okapi depuis un demi-siècle.
Non.
Vous êtes arrivé quand au journal ?
Vous êtes aimable. je suis directeur d'Okapi depuis 2 ans.
Voilà. En quoi la demande éditoriale de vos lecteurs a varié au fil des ans ?
Alors, au fond, il y a des invariants, c'est-à-dire il y a les invariants de toutes les questions du 100% ado d'Okapi, c'est-à-dire toutes les questions sur la puberté, sur le corps, sur les relations avec les parents, les copains, les filles, les garçons. Ça, depuis le numéro 1 d'Okapi, il y a ces sujets-là. Et puis, l'idée de faire un journal où le monde s'agrandit, où on s'intéresse à l'actualité, au monde tel qu'il va, là aussi, ça ne bouge pas. Simplement, effectivement, comme le monde bouge, c'est le grand bonheur de faire un journal d'actualité pour les ados, c'est que d'un coup, ça se renouvelle tout le temps.
De quoi on parle dans Okapi aujourd'hui, dont on ne parlait pas il y a 50 ans ? À part évidemment de l'iPhone qui n'existait pas, mais est-ce qu'il y a des sujets qui étaient tabous il y a 50 ans qui ne le sont plus aujourd'hui ?
Non, il n'y a pas de tabou. Lina, là, pour notre anniversaire, a ressorti une vidéo hyper marrante où c'est le rédac-chef de l'époque qui parle avec des parents parce qu'ils ont sorti un numéro spécial sexualité.
Ouais.
Ils en débattent entre eux, ils demandent si ça les choque, s'ils trouvent que c'est intéressant de parler de ces sujets-là avec les ados. Et les parents, déjà, disent « Non, en fait, faites-le parce que ça nous aide, en fait.
Mmh. »
Pour nous, c'est gênant. Pour nous, c'est pas des sujets faciles. Et que vous puissiez faire le job, c'est pas mal. Et c'est vrai que nous, une des clés de réussite d'Okapi, c'est-à-dire que les ados, quand ils le reçoivent, ils s'enferment dans leur chambre pour le lire, etc. Si le Okapi ressort sur la table du salon, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des sujets dont ils aimeraient parler avec leurs parents. Et du coup, il y a un petit message caché pour en parler.
Il sert de vecteur intergénérationnel.
Vecteur, exactement.
Et je pensais à un truc, pendant que vous parliez, je faisais ce petit calcul. Il faut se rendre compte qu'il y a un demi-siècle, ça paraît très très loin, mais 1971, c'était après mai 68. Et avec les changements de mentalité qui sont arrivés en France et dans le monde. Inversement, est-ce qu'il y a des sujets dont vous ne pouvez plus parler aujourd'hui ?
Non, on parle vraiment de tous les sujets. Que ça soit dans les sujets qui crispent un peu le pays, que ça soit, je sais pas, la liberté d'expression, que ça soit la vaccination. On a fait une super BD au printemps dernier, l'histoire de la vaccination de Pasteur à l'ARN messager, pour leur donner à comprendre à la fois la densité de cette histoire, quelles sont les grandes étapes qu'on a franchies et où on en est aujourd'hui.
Et vous n'avez pas eu de manif d'antivax en bas de chez vous ?
Pas en bas, ils n'ont pas mon adresse.
En bas de chez vous, je veux dire, en bas du journal,
non,
évidemment.
Non.
Dans l'édito de ce numéro, il y a une chose qui m'a marqué. Okapi est un magazine pour ados, mais il y a 50 ans, on ne disait pas ados.
Non, on ne disait pas ado. Mais comme vous le dites, en fait, il a été créé en 71, juste après mai 68. Et au fond, la France a découvert ses ados en même temps qu'elle a découvert Okapi. Un autre titre de Bayard, c'est Phosphore, qui est né en 81 et qui, au fond, accompagnait les lycéens au moment où la France découvrait ses lycéens. Et chez Bayard, il y a aussi un journal, Notre Temps. C'était au moment où la France découvrait ses retraités. Donc, il y a effectivement quelque chose chez nous d'accompagner ces grands mouvements de génération.
Il y a peu de publicité dans Okapi. C'est un choix ou les annonceurs ne veulent pas venir chez vous ?
Alors, c'est à la fois un choix, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas n'importe quelle publicité, pas n'importe quel secteur d'activité. Mais en même temps, on est très ouvert aussi à certaines formes de publicité, si ça peut
ils vous
parler écoute, à des ados.
Ils vous écoutent, les annonceurs.
Je leur laisserai mon téléphone à la fin.
Je l'ai dit, Okapi, c'est le magazine pour les 10-15 ans. Vous avez raconté la difficulté, c'est qu'une fois qu'ils sont plus âgés, ils sortent du cœur de cible, donc ils arrêtent de vous acheter. Il faut reséduire à nouveau des jeunes. Avantage énorme quand on travaille pour la jeunesse, vous le savez, c'est qu'on peut faire du marbre, car à chaque génération arrivent de nouveaux lecteurs qui n'ont pas lu ce que vous venez d'écrire, contrairement à un magazine adulte. Quelle est la part d'intemporel dans Okapi, la part de papier que vous pouvez republier avec 5 ans ou 10 ans d'avance de marbre?
Eh bien, zéro. En fait, on ne republie rien dans Okapi.
Quand vous racontez comment le lion court après la gazelle, n'a pas varié en 5 ans.
Mais on le fait assez peu dans Okapi, parce qu'on est vraiment ancré dans le monde tel qu'il va. Donc, on peut dire la disparition des oiseaux des champs, on peut parler des prix Nobel, on peut parler de qui fait Wikipédia, de la liberté d'expression. Mais au fond, il faut à chaque fois trouver la façon de le raconter qui va plaire aux ados de 2021, qui ne sont pas les mêmes que ceux de 2015. Donc, on avait fait, par exemple, pour parler de François Ier, on avait fait le Facebook de François Ier.
Ouais.
Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas faire le Facebook de François Ier parce que les ados d'aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que c'est Facebook.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, Facebook, maintenant, c'est un truc de vieux. Vous avez résumé François Ier. Vous disiez que si François Ier était là, il serait en train de s'embrouiller avec Charles Quint sur Instagram. Je cite de mémoire. Je me souviens
donc
plus ce que vous avez écrit.
On a fait depuis les Napoléons en famille Kardashian. On essaye de trouver des modes de traitement rigolos.
Je parlais de diversification. Okapi a créé une chaîne YouTube. Et voici ce qu'on peut y trouver. Florilège.
Hey, Capi.
Je m'appelle Lou.
La vie d'ado.
C'était quoi le truc le plus stupide que tu as fait ?
Je suis allée embrasser mon crush sur la joue.
Moi c'est Marie.
Moi c'est Alicia.
Et aujourd'hui, Okapi t'emmène
au port de pêche de Lorient.
Et tu as appris des trucs sur toi pendant le confinement ?
J'ai peut-être évolué un petit peu intérieurement.
Okapi, on se dit tout. Jonathan à ton service.
Ce matin, en me regardant dans la glace, j'ai vu qu'on voyait vachement le duvet que j'avais sous le nez.
Ça y est, t'en es
un. Un quoi ?
Un homme.
L'orientation, séduire un garçon, le truc le plus débile que j'ai fait, le port de pêche de Lorient, c'est quoi la ligne éditoriale d'Okapi sur YouTube ?
Alors avec ma vie d'ado, c'est vraiment là de pouvoir poser des questions avec plein de réponses de plein d'ados. Le truc le plus stupide, effectivement, mon prof préféré, le premier livre que j'ai lu qui me touche, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir se comparer. C'est vraiment le truc des 10-15 ans, c'est-à-dire de se dire est-ce que je suis comme tout le monde, à quel point j'ai ma différence, à quel point je suis ridicule, etc. Donc, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement rassurant de voir toute cette diversité de réponses. Pour les parents, c'est assez marrant aussi à écouter parce que c'est assez touchant et ça permet d'ouvrir la conversation aussi sur tous ces sujets-là avec ses propres ados. Et puis, on est content parce que depuis l'année dernière, c'est aussi un programme d'éducation aux médias. Il y a une douzaine de web radios dans des collèges de France qui produisent leurs propres épisodes en faisant travailler les élèves du collège qui prennent une question, qui vont interviewer des ados et qui ensuite, nous, on les partage sur notre chaîne.
Merci beaucoup, David Groison. Je rappelle que vous êtes le directeur des titres ados de Bayard Jeunesse. Le numéro anniversaire des 50 ans d'Okapi est en kiosque pendant un mois. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans
Merci
un instant,
vous.
On va parler de la nouvelle fiction de la plateforme de podcast Cybelle. C'est la disparition de Stéphanie Meiller d'après Joël Dicker. C'est réalisé par Anna Girardot, la comédienne qui sera avec nous, accompagnée de Virginie Maire, la fondatrice de Cybelle. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Anna Girardeau.
Bonjour.
Une première fois que vous venez dans Culture Média, ravi de vous accueillir. Vous êtes comédienne, on vous a vu dans Clo-Clo, dans 5e set, on a reçu Alex Lutz pour le film. J'ai également cité les séries Les Revenants ou La Flamme, désormais réalisatrice. Et votre actualité, c'est un podcast, La disparition de Stéphanie Meiler, d'après le roman de Joël Dicker. C'est à écouter sur la plateforme Cybelle. Virginie Maire, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes justement la fondatrice de Cybelle, plateforme de podcast lancée en 2019. La spécificité de Cybelle en un mot?
Des séries immersives que vous allez retrouver avec tout un tas de contenus, d'heures, de contenus, de fiction, de documentaires, d'histoires pour les enfants.
Alors, je vais pas vous demander ce que veut dire immersif, mais je vais plutôt poser la question à Anna Girardeau comme feuille de route. Est-ce que Virginie Maire vous a dit « fais-moi de l'immersif » ?
Elle me l'a dit avec cette très belle voix.
Ouais. Une voix de radio. Hein.
Tout à fait. C'est la spécificité de Cybelle et des programmes qu'il conçoit. Ouais. C'est cette idée qu'on peut tout d'un coup rentrer dans une fiction auditive comme on rentre dans un film. C'est-à-dire, d'ailleurs, excusez-moi, j'enlève mon casque,
ouais.
J'entends trop ma voix.
C'est mieux sans casque.
Quelque part, en fait, l'audio-fiction nous permet de rentrer dans une histoire avec des spectateurs, dans un univers, et de rentrer de la même manière qu'on... Excusez-moi, je me perds.
Je vais vous dire, moi, je vais vous sauver. Je suis entré dedans, j'ai pu entendre 3 épisodes, et comme on dit un patch-turner, j'étais frustré parce que c'est arrêté, j'étais complètement dans l'histoire, et je voulais savoir ce qui allait se passer. D'un mot, c'est vous qui avez signé Joël Dicker, comment ça s'est passé, Virginie Maire? L'idée est venue de qui? Et je voudrais que vous me racontiez l'histoire en quelques mots, à grands traits, de la disparition de Stéphanie Meiler.
Alors, on a effectivement contacté Joël Dicker pour racheter les droits. Ça se passe exactement comme dans le cinéma, comme sur de l'audiovisuel, de manière générale. Donc, on achète des droits auprès de l'auteur pour pouvoir faire une adaptation. Donc, c'est vraiment une adaptation. Donc, ça veut dire que ça a été réécrit entièrement par une autrice, qui s'appelle Sophie Lump, qui a donc réadapté entièrement le livre pour que ça soit vraiment audio. Donc, c'est complètement du dialogue. On a un casting incroyable qu'a dirigé Anna Girardeau avec une main de maître. On a Alice Belaïdi, on a Guillaume Labbé, Samir Ghesmi, Alice David. Voilà, on a un casting
de dingue. Et l'histoire, d'un mot pour qui n'aurait pas lu le roman de Joël Dicker.
Et donc, sur la disparition de Stéphanie Meiler, vous êtes complètement immergé dans les États-Unis. Et a priori, il y a une enquête. Ils se seraient trompés sur la personne qu'ils ont arrêtée. Il y a eu un meurtre, une série de meurtres d'ailleurs, il y a 30 ans. Et donc, Stéphanie Meiler, une journaliste, vient leur dire qu'ils se sont plantés.
Ouais, l'enquêteur, il s'appelle Jesse Rosenberg. Il va bientôt prendre sa retraite, mais Stéphanie Meiler, cette journaliste locale, vient semer le doute sur cette affaire de meurtre résolue il y a 20 ans.
Alors c'est vous, Jesse Rosenberg, le fameux capitaine 100%.
Pareil. On se connaît ?
Stéphanie Meiler, journaliste à l'Orphea Chronicle. Ça vous embête pas si je vous appelle plutôt capitaine 99%.
Comment ça ?
Tenez, je vous en prie, lisez.
1er août 1994, quadruple meurtre à Orphea. Moi, je connais bien cette affaire. C'est moi qui en étais chargé.
Laissez-moi continuer. Samedi soir, le maire d'Orphea, Joseph Gordon et sa femme, ainsi que leur fils de 10 ans, ont été abattus chez eux. La quatrième victime, une joggeuse de 32 ans, Megan Padaline, a été tuée par balle en pleine rue devant la maison du maire.
Et donc ? Vous êtes là pourquoi exactement ?
Vous êtes trompé de coupable. J'ai pensé que vous seriez heureux de l'apprendre avant de quitter la police.
Quoi, comment ça ?
Vous n'avez pas trouvé l'assassin. J'ai un rendez-vous tout à l'heure qui devrait me confirmer.
Énorme travail également sur le son. Si vous avez la chance de l'entendre en stéréo, c'est absolument prodigieux. Comment vous avez travaillé ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, Anna Girardeau ? Vous avez dit oui tout de suite ?
Ah oui, j'ai dit oui tout de suite. Déjà, le travail avec les acteurs était vraiment extrêmement agréable, et pour eux et pour moi, parce que quelque part ils arrivent le matin, ils n'ont pas besoin de s'habiller, ils n'ont pas besoin de se faire maquiller, et tout d'un coup ils ont 5 ans et ils jouent un peu avec leurs copains. Il faut imaginer un lieu, un commissariat de police, une forêt. On avait un bruiteur qui travaillait avec nous, qui tout d'un coup arrivait à reproduire le sable avec un sac poubelle. C'était quand même quelque chose de qui nous ramène vraiment à l'essence de ce qu'on veut faire quand on est acteur. Ensuite, moi, mon travail en post-production, c'était d'amener cet univers. Il fallait que j'emmène tous ces comédiens aux États-Unis, aux Hamptons. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec de la musique, avec des sons tout d'un coup. Pour moi, les États-Unis, c'est les sirènes de police, le camion de glace, le diner, ouais. Et tous ces sons en fait qui nous font voyager. Et tout ça mélangé nous emmène dans cet univers et nous transporte réellement dans le roman de Joël.
Et il y a même le son de la télévision. On va entendre les premières secondes, en quelque sorte le générique.
Le maire de la ville d'Orphéa et sa famille ont été retrouvés morts à leur domicile.
Meurtre au paradis, ce quadruple assassinat qui traumatise la ville d'Orphéa.
Une enquête a été ouverte. La police a commencé à interroger l'entourage du maire.
La disparition de Stéphanie Meller. Une création si belle. D'après le roman de Joël Dicker, adapté par Sophie Lemp. Réalisé par Anna Girardot. Une production Showcast.
C'est un générique de podcast, mais on dirait un générique de cinéma avec le nom du réalisateur, en l'occurrence une réalisatrice, et même le nom de la société de production. Virginie Maire, il manque plus que l'image.
Elle ne sert à rien, l'image. Ouais. On a notre imaginaire qui nous crée nos propres images. C'est ça, ouais, qui est génial avec une série aussi immersive que celle-ci.
Non, mais je veux dire par là que c'est très, très ambitieux. Auparavant, on écoutait des podcasts, c'était des histoires, et maintenant, on les signe, on donne les noms de tout le monde. Ça devient une équipe, quoi.
Elles sont aussi beaucoup plus ambitieuses dans la production en elle-même. Donc oui, c'est vraiment, on fait ce que décrit Anna et comment est-ce qu'elle a réalisé cette série. On est vraiment dans le même process de production finalement que sur de l'audiovisuel. Donc oui, on reprend ces codes-là.
Je ne vais pas demander le salaire des uns et des autres, mais vous avez dit une fois que le coût d'une histoire audio était variable. Ça allait de 15 000 à 100 000 euros. Là, j'imagine que la disparition, c'est dans la fourchette haute.
C'est une série extrêmement ambitieuse.
C'est-à-dire, ça coûte combien, une série comme ça? Et comment on retrouve ces copecs?
Alors, aujourd'hui, on peut découvrir la série gratuitement sur les deux premiers épisodes sur Cybelle, en exclusivité, parce que justement, on a envie que les gens viennent au démarrage écouter, découvrir...
Et une fois qu'ils seront accros, ils vont s'abonner. C'est ça la technique.
Et, après, c'est un système de toute manière pour pouvoir justement rémunérer à sa propre valeur, à la réelle valeur, toute cette équipe de production des équipes techniques, aux comédiens, aux auteurs, autrices, réalisatrices, etc.
Et voilà, le bruiteur.
C'est le bruiteur, évidemment. Donc on a tous ces techniciens et techniciennes, auteurs, autrices, comédiens, comédiennes, etc. Donc oui, effectivement, pour avoir quelque chose de qualité comme ça, ça a évidemment un coût. Et voilà.
On n'a pas encore totalement parlé du casting. On est avec Virginie Maire et Anna Girardot. On parle de la disparition de Stéphanie Meller. C'est un podcast. On marque une courte pause.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Anna Girardot, elle réalise un podcast, le premier de sa carrière. C'est La disparition de Stéphanie Meller, adapté du roman de Joël Dicker. C'est sur Virginie Maire. C'est sur Virginie Maire, pas du tout. C'est sur Cybelle, créé par Virginie Maire. Joli lapsus, j'ai fait le même que Léla Cadour il y a deux jours. Vous nous disiez, Virginie Maire, que les deux premiers épisodes sont gratuits.
Oui, tout à fait. Ils sont gratuits, ils sont disponibles depuis ce week-end. Et là, vous allez encore découvrir toute la semaine, puisque c'est un épisode par jour que vous découvrez jusqu'à samedi prochain.
Alors, Anna Girardot, il y a un gros casting. C'est vous qui l'avez fait, le casting, ou il préexistait? Qui l'avez fait?
C'est moi qui l'ai fait.
Alors justement, je voudrais qu'on entende, c'est un extrait du deuxième épisode. À ce stade, voilà où on en est de l'histoire. Jesse veut relancer l'enquête, mais son supérieur, c'est le major McKenna, qui s'y oppose. Il prétend que l'affaire est bien résolue et il met la pression à Jesse, à qui il n'accorde que quelques jours pour avoir des preuves.
Allô, Jesse?
Oui, major.
À quoi tu joues, Rosenberg? Le maire d'Orphéa ne lâche pas. Il dit que tu fais paniquer tout le monde avec cette pseudo-disparition. Il ne parle que d'une chose, son festival de théâtre qui aura lieu dans quelques semaines. Et il dit qu'à cause de toi, ça va être un putain de fiasco.
Major McKenna, c'est la vie d'une jeune femme qui est en jeu. Je suis sûr que sa disparition est liée à l'affaire de 94, le quadruple meurtre.
Mais qu'est-ce que tu racontes? L'enquête est bouclée depuis longtemps, tu le sais aussi bien que moi.
Anna Girardot, on a bien reconnu la voix du major McKenna. Vous n'êtes pas allé chercher bien loin, c'est votre papa, Hippolyte Girardot.
Ah, je suis allé chercher le meilleur.
Ouais. Allez, quel effet ça fait de diriger son papa? Là, je suis sérieux.
Et ben alors, je n'ai pas réalisé que ce que j'étais en train de faire jusqu'à ce qu'il arrive sur le plateau. Et je me suis dit, ah merde. C'est mon père.
Ouais.
Mais il était super.
C'est votre père et c'est un sacré comédien. C'est pas un gars à qui on apprend le métier.
Ah non, c'est pas moi qui vais lui apprendre en
donc
plus.
Donc c'est pour ça. Comment on fait pour le diriger, un type qui en sait plus que vous, théoriquement?
Ah, et je l'ai laissé faire et puis après, je l'ai ramené là où je voulais l'emmener. Et puis il est très malléable en plus.
Ouais.
Et puis c'est amusé. Voilà. L'important, de toute façon, pour tous les comédiens, c'est qu'ils s'amusent. C'est ce que je voulais. Parce que ça s'entend, tout s'entend, tout se voit. La non-concentration, un texte non su, s'entend.
Comment ça, un texte non su? Il faut connaître son texte quand on fait un podcast. Je veux dire, je pose une question de béotien, moi qui ne suis pas du tout comédien. Je pensais qu'un podcast, l'avantage, c'est comme une lecture, on a la feuille avec soi.
Alors ça, c'est ce qu'on pense. Est-ce que les comédiens pensent aussi? Malheureusement, en fait, la lecture, ça s'entend aussi. De jouer et de lire, ce n'est pas la même chose.
Vous avez raison. Il y a des gens qui font de la radio, on entend qu'ils lisent et d'autres, ça ne s'entend pas.
Voilà. Après, il y en a qui arrivent au bout de quelques prises. En fait, le texte est su par l'acteur. Ouais. Donc, il joue beaucoup mieux que la première fois quand il le lit.
Virginie Maire n'aime pas parler d'argent, mais est-ce que Hippolyte Girardot vous a fait un prix d'amis? Est-ce que vous avez fait un prix famille?
C'est que pour moi, du coup, les questions d'argent.
Bah évidemment, c'est vous qui avez le chéquier. Est-ce qu'Hippolyte Girardot vous a fait un prix d'amis ou pas du tout?
Alors, Hippolyte Girardot, comme tous les comédiens, est-ce qu'il a été payé d'abord?
Ouais.
Il y a une enveloppe, évidemment, pour les comédiens. Ils ont leur cachet. Et non, je ne vais pas donner le salaire d'Hippolyte Girardot, si c'est ça que vous voulez, Philippe.
Non, de toute façon, je ne vais pas le demander. Cybelle n'est pas producteur. Vous fonctionnez comme une plateforme de SVOD, c'est bien ça?
Alors, on fonctionne comme une plateforme de SVOD, mais ça veut dire qu'on finance en fait toute la création. Donc, c'est nous qui finançons, pour continuer à parler d'argent, toute la production. Et donc là, en l'occurrence, c'est produit par une boîte de prod qui s'appelle Showcast, qui a produit ça. C'est pas la première prod qu'ils font pour nous. Donc, ils avaient fait Dive aussi avec Alice David d'ailleurs. Il y a déjà un an et demi.
Alors, on parlait de Cybelle, ça marche de mieux en mieux. L'abonnement, c'est 3,99€ par mois, 39,99€ par an. Combien d'abonnés payants avez-vous en ce moment et à combien serez-vous rentable?
Alors, je ne donne pas, et vous le savez, mais nos chiffres par rapport à ça. Ce qui est important de voir sur l'évolution, en l'occurrence, de la consommation, c'est qu'elle est en grosse croissance, que, comme vous le savez, on a des contenus pour les adultes, des contenus pour les enfants. Cet été, c'est toujours un grand moment de consommation, parce que c'est un moment où les gens prennent le temps, justement, de découvrir des nouvelles plateformes, des nouveaux services qui vont permettre d'avoir accès à la culture, à du divertissement.
Cet été, si j'ai bien informé, vous avez signé un accord avec Disney.
Oui, tout à fait. Cet été, on a signé un accord avec Disney.
Qui consiste en quoi ?
Aujourd'hui, on a plus de 50 titres en fait, de Disney qui vont du Roi Lion aux Indestructibles, au Livre de la Jungle, et qui sont en distribution sur Cybelle.
Et vous avez également signé un accord avec Free et également, si je suis bien informé, avec Red, qui est une marque de SFR, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est distribué par SFR, par Red, par Freebox, donc maintenant sur télé également, puisqu'il s'avère que la consommation de l'audio sur télé est aussi en grosse croissance.
C'est-à-dire, ça se passe comment ? C'est-à-dire, les gens allument leur télé, il y a un écran de veille, ou est-ce que la télé se met en écran noir et on a juste le son ? Comment ça se passe techniquement ?
Alors, on va avoir la même plateforme qu'on a aujourd'hui disponible sur iOS, Android, tablette, web aussi, puisque on est aussi disponible en web. On est aussi sur Alexa, en enceinte connectée. Donc là, on n'a pas d'image. Donc ça, c'est un peu plus compliqué pour la découvrabilité des contenus. Donc on travaille énormément là-dessus. Et donc, sur la télé, on va naviguer de la même manière pour aller découvrir pour aller chercher les bons épisodes. Et puis, on les écoute.
Anna Girardot, vous êtes une jeune maman. Est-ce que vous faites écouter des podcasts à vos enfants?
Oui, il y a 9 mois. Donc
bah bon, on n'y est pas encore.
Mais je trouve ça magnifique comme idée, parce que j'ai autour de moi des enfants plus grands, à qui je fais écouter des audiofictions. Et c'est merveilleux, parce qu'ils sont aussi concentrés, aussi dedans que si je les avais mis devant la télé. Par contre, à la fin, quand je leur demande « Est-ce que tu peux me dessiner le château dont on parlait dans l'histoire ?» Eh bien, ils me dessinent chacun un château différent. En fait, leur imaginaire a fait le même travail que si je les avais mis devant un livre. Et par contre, j'ai pu, moi, jouer avec ma meilleure amie et faire ce que je voulais en attendant. Donc, j'ai trouvé ça incroyable.
Magnifique conclusion. Dessine-moi un château. Merci beaucoup, Anna Girardot. Merci beaucoup, Virginie Maire. Je rappelle, La disparition de Stéphanie Meiler, c'est 8 épisodes d'environ 13 minutes d'après le roman de Joël Dicker. C'est à écouter sur la plateforme Cybelle, S-Y-B-E-L. Allez-y, les 2 premiers épisodes sont gratuits. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Aujourd'hui, zoom sur la couverture médiatique de la candidate écolo Sandrine Rousseau. Notre invité, c'est le comédien Antoine Duléry qui fête ses 40 ans de carrière dans son spectacle 90 minutes avec Antoine Duléry. Et puis dans les indispensables, après les musiques avec la belge diva Saul Selassou, l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebrun en fin d'émission. Il risque d'y avoir une battle d'imitation. A tout de suite.